RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
François Pinet.
Il est 11h04 sur RMC. Vous êtes à l'écoute des grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi, comme tous les week-ends, avec aujourd'hui Marion Bartoli, Manu Amoros, David Douillet. Et si vous avez manqué les deux premières heures, on ne peut pas vous en vouloir. Vous venez peut-être de vous réveiller. Alors, bon réveil. Le podcast est disponible pour écouter notamment l'interrogatoire des GG avec Arnaud Gérald, l'apnéiste recordman du monde, ou encore les avis de nos GG sur l'OM, plus grand club de France. Je vous promets, ça vaut le coup. Dans 30 minutes, nos GG sont sur le terrain, direction le Qatar, à 99 jours du début du mondial. Est-ce que vous êtes excité par cette Coupe du Monde ou plutôt partisan du boycott? On vous attend bien sûr sur le hashtag RMC Live sur Twitter et sur l'appli RMC Direct Studio pour vos messages. Et puis le 32-16, bien sûr, puisqu'on vous attend à la fin de l'émission pour vous accueillir, fidèle auditeur des GG. Ça sera votre moment pour venir dire en face ce que vous pensez d'un avis des GG. Mais d'abord, les grandes gueules du sport qui passent la seconde avec bientôt une dernière sérénade.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Breaking news, Serena Williams announcing on Instagram this morning that she will soon retire from tennis.
I don't know.
Je ne sais pas, il y a une lumière au bout du tunnel et je m'en rapproche.
Serena Williams.
Vous êtes la meilleure.
Comment la meilleure? Vous avez dit la meilleure.
Oui. Le vrai talent, c'est de s'arrêter au sommet. Avant la chute.
J'aime jouer, mais je ne peux pas faire ça pour toujours.
Non, il faut sonner la retraite, là.
Un choc, forcément, même si on s'y attendait. Une championne hors norme.
Elle est la meilleure de toutes, sans comparaison.
Ah là, on imagine David Douillet danser et se préparer pour Danse avec les Stars sur cette chanson. Alors que Marion Bartoli va bientôt faire The Voice, vous l'avez compris. ou pas. Serena
surtout
Williams
pas.
En larmes.
Surtout pas.
Pourquoi pas? Et pourquoi pas? On a des talents dans les GG. C'est quoi ton talent caché, Manu? Ou pas caché d'ailleurs.
Bah, je cherche. Ouais, la pétanque, c'est pas mal la pétanque. Bah, nous dans le sud, on joue beaucoup à la pétanque.
Ouais, c'est pas
avec
mal.
Avec un petit verre de.
Non, bah, non, avec modération.
Modération.
Bien sûr, avec un petit verre de modération. Serena Williams en larmes après son élimination au deuxième tour du tournoi de Toronto. On l'a vu cette image, puisque la tournée d'adieu de l'américaine devrait se poursuivre à Cincinnati, où d'ailleurs elle va affronter Raducanu au premier tour, et à l'US Open fin août. Ça sera peut-être son dernier tournoi. En tout cas, elle a annoncé sa future retraite par ces mots: il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait, et Dieu sait que j'aime le tennis. Alors cette question, les GG. Serena Williams est-elle la plus grande sportive de tous les temps? Oui ou non? Manu Amoros.
Non.
Non. David Douillet.
Non.
Non. Marion Bartoli.
Oui.
Oui pour Marion. Intéressant. L'arbitre de ce débat sera Eric Salio, notre spécialiste tennis RMC. Salut Eric. Pourquoi tu rigoles ça quand je dis arbitre du débat? C'est non, peut-être le mot spécialiste du tennis, c'est ça qui te fait rigoler, Marion? T'as entendu, Eric? Quand je dis spécialiste du tennis à RMC, Marion, elle se marre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Oui, non, mais c'est une private joke entre nous.
D'accord.
Ah bon. Voilà, exactement.
Bon. On n'aura pas le loisir de l'entendre.
On connaît plus trop longtemps avec Eric.
Bon, en tout cas, Eric, est-ce que tu peux, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous rappeler le palmarès exceptionnel de Serena Williams?
Je vais essayer de vous rappeler sa carrière. 23 titres du Grand Chelem, 5 Masters, une médaille d'or olympique. Ces simples chiffres pourraient suffire à classer cette immense championne à l'aura extraordinaire. Mais ce qui me frappe, moi, c'est qu'elle a occupé le paysage tennistique pendant plus de 20 ans. Ceux qui l'ont vu décrocher son premier titre à Coubertin face à Amélie Mauresmo en 99 se doutaient qu'elle écraserait tout sur son passage, y compris sa sœur Aînée Vénus, qu'elle dominera souvent en finale de Chelem. Tenez-vous bien, entre 2012 et l'été 2015, elle soulève 11 titres majeurs. Mais la première cassure survient justement à l'US Open 2015. Tout New York se prépare à fêter un quatrième chelem à la suite, histoire d'imprimer un peu plus sa griffe. Mais la pression est trop forte et elle se crache inexplicablement en demi-finale sur l'italienne Vinci. Sa quête du record de Margaret Court, 24 chelems, en prend un sérieux coup. En 2017, elle se relance en remportant l'Open d'Australie, le numéro 23. Mais on apprendra plus tard qu'elle était enceinte de 2 mois. Et après la naissance de sa fille Olympia, elle reprend le chemin des cours avec un courage et une foi inébranlable. Le pari semble fou. Elle aura quatre occasions d'égaler Margaret Court, deux fois à Wimbledon, deux fois à l'US Open. En 2018, ne supportant pas d'être accusée de tricherie après un avertissement pour coaching, elle perd ses nerfs face à l'arbitre et Naomi Osaka soulève le trophée dans une atmosphère de chaos indescriptible. Elle gâchera une ultime chance l'année suivante face à la Canadienne Bianca Andreescu. 23 reste un chiffre maudit pour Serena. Sa tournée d'adieu débutée à Toronto s'annonce émouvante. Les places pour son ultime match à l'US Open se sont arrachées. Le gratin new-yorkais se rendra à Flushing car Serena est une icône. Elle représente la réussite sociale pour une jeune fille qui n'avait peut-être pas toutes les clés à la base. À 40 ans, la Lyonne voudra quitter la plus grande scène du monde avec panache, comme André Agassi en 2006. Il y aura des rugissements, des larmes, car elle l'a dit dans sa lettre dans le magazine Vogue, elle est très mauvaise pour les adieux. Cette retraite, elle l'a répété, ce n'est absolument pas un soulagement.
Merci beaucoup Eric, tu restes avec nous bien sûr. Serena Williams est-elle la plus grande sportive de tous les temps? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Avant d'entendre Marion Bartoli, la seule à avoir dit oui et qui côtoie et qui connaît bien sûr très très bien Serena Williams, David, tu as dit non toi?
Ouais, j'ai dit non parce que encore une fois, ça m'exaspère un peu toujours ces comparaisons, parce que là on va parler de comparaisons parce qu'il s'agit d'une sportive tout sport confondu. Alors que ce soit dans le monde du tennis, peut-être que oui, et ça Marion est plus capée que moi pour y répondre. Mais tout sport confondu, non, parce que ça veut rien dire. Il y a des sports que tu peux pratiquer plus longtemps que d'autres. Il y a des sports dans lesquels même des femmes n'avaient pas le droit de concourir, et je parle du marathon, la première femme, Karine Switzer, qui participe à un marathon, on a essayé de l'arrêter en 67, par exemple. Alors pourquoi? Ça pourrait être elle, pourquoi pas. Dans le milieu de l'automobile, Michel Mouton, dans le milieu des rallyes, a été la seule et unique femme à participer et à gagner des rallyes avec des hommes. Cette histoire me chagrine toujours parce que on peut pas comparer tous les sports. On peut pas, que tu sois le plus grand ou la plus grande dans ta discipline. Et encore, parce que là, les règles aussi évoluent. C'est pas si évident que ça. Chaque période a son champion ou sa championne. Chaque discipline a sa championne ou son champion. Et puis, que ce soit une des plus grandes sportives de tous les temps. Oui, mais peut-être pas la plus grande. On peut pas le dire, on peut pas comparer. Pour moi, c'est impossible à comparer.
Alors, Manu, on t'entendra dans un instant, mais Marion, toi, tu as dit oui. Oui, c'est la plus grande sportive de tous les temps.
Oui, parce que comme l'a évoqué Eric très justement dans son sujet, elle a eu cette capacité à durer avec une longévité exceptionnelle. Elle a eu cette capacité à faire évoluer son tennis. Quand on voit Serena Williams remporter son premier tournoi du Grand Chelem à l'US Open en 99, c'est pas du tout le même jeu qu'elle pratique 10 ans plus tard et encore moins 20 ans plus tard. Donc elle a eu cette capacité à se remettre en question. Elle a changé les codes du tennis par sa manière de s'habiller, sa manière d'être sur le terrain. Elle a révolutionné la technique de son sport en utilisant, étant la première avec sa sœur, utiliser des appuis ouverts alors que le tennis était très ancré sur des appuis en ligne, et c'est elle qui a amené un jeu nouveau. Quand on voit aujourd'hui Naomi Osaka ou des Coco Gauff jouer, on voit très bien l'empreinte colossale qu'a eu Serena Williams sur la technique utilisée par la nouvelle génération de joueuses. Donc pour tout ça et pour ce qu'elle représente en dehors du court, c'est une icône mondiale dans tellement d'autres disciplines que simplement son sport, par ses combats qu'elle mène, par la businesswoman qu'elle est, et pour tout cela, au-delà du tennis, en fait, moi, si tu veux, tu peux, bien sûr, les exemples cités par David sont totalement entendables, et c'est vrai que c'est pas évident de comparer, mais en fait, moi, c'est l'aura extérieure qui me fait dire qu'effectivement, par exemple, elle est dans la même catégorie, peut-être qu'un Michael Jordan, qu'un LeBron James ou qu'un Tom Brady, parce que c'est au-delà de leur propre sport. Mmh. Et c'est ça qui, fait partie du critère.
David, elle bénéficie,
D'une autre époque médiatique. Tu prends Nadia Comaneci. Nadia Comaneci qui a fait de la gym. La gym, tu peux pas en faire jusqu'à 40 ans. C'est impossible. Voilà. Donc, Nadia, qui a été la première femme à obtenir un 10 à la gym, elle a arrêté sa carrière très jeune. Et puis, à l'époque, dans les années 80, tu pouvais pas être médiatisé tout autant que ce que l'on est aujourd'hui. Donc, tu peux pas comparer deux époques à une autre. Nadia, aujourd'hui, serait, j'en suis quasi certain, au même niveau qu'une Serena Williams en termes d'aura, de popularité, de business.
Après, c'est pas le même sport quand même, David.
Donc, tu peux pas comparer.
Gymnastique et tennis, t'as quand même un sport comme le tennis qui touche peut-être plus plus de monde. Et si tu peux comparer, parce que tu te dis que Serena Williams, elle est connue de tout le monde parce que son sport justement est quand même plus médiatique et médiatisé. Mais
non, parce que
la gymnastique.
Il y a une époque où les médias n'étaient pas aussi. Regarde, Manuel le disait tout à l'heure. À son époque, en tant que footballeur, il pouvait se balader dans les villes, dans la ville, sans créer une émeute. Pourquoi ? Parce que les gens étaient médiatisés différemment. Et puis il y avait moins d'organes de médias. Et puis c'était autre chose. Non mais sincèrement, tu peux pas comparer deux époques. Il y a une époque où il y a une surmédiatisation avec des nouveaux moyens de communication et d'autres, ça n'existait pas. Donc tu peux pas dire que Nadia Comaneci, par exemple, est moins bien que Serena Williams, que c'est moins.
Oui, mais tu prends l'équivalent, on va dire, de Nadia Comaneci qui est Simone Biles aujourd'hui. Exactement. Qui est une gymnaste extrêmement connue aux États-Unis, elle sera quand même toujours moins connue que Serena Williams dans le monde entier. Et pourtant, ce serait l'équivalent, on va dire, à peu près actuel par la médiatisation.
C'est pas la même équivalence. C'est pas la même équivalence. Je suis pas d'accord.
Alors, Manu.
Oui, moi, je pense qu'il faut rester dans le monde du tennis. Quand on voit la, Chris Evert et Martina Navratilova, ces deux championnes extraordinaires qui ont gagné énormément de titres et qui ont plus de titres que Serena Williams. Donc,
c'est parce que ça.
Comment ? En grand chelem, on parle, mais tu parles que du grand chelem, mais il n'y a pas que les grands chelems. Il y a d'autres tournois aussi, c'est de la régularité que tu peux avoir sur toutes les saisons qu'elles ont faites.
Manu, je comprends.
L'époque de Chris Evert et Martina Navratilova, tu peux vraiment pas comparer parce que déjà, il y a beaucoup moins de concurrence, beaucoup moins de joueuses.
Mais pourquoi ?
Non, mais tu peux. C'est pour ça qu'on prend toujours cette référence des tournois du Grand Chelem, mais c'est un débat qu'on peut avoir aussi chez les garçons. Hein. Mais cette référence-là est vraiment le point, on va dire, où tout le monde s'accorde dans le tennis, parce que le reste des tournois, c'est tellement des programmations particulières et uniques, il n'y a pas de tournoi obligatoire à jouer, il n'y a que les quatre tournois du Grand Chelem que tout le monde joue. Donc c'est pour ça qu'on ne prend pas forcément les titres.
Oui, mais il y a la préparation des tournois des Grands Chelem.
Mais
ceux-là,
les tournois du Grand Chelem, c'est vraiment ce qui reste. Et de toute façon, même Martina Navratilova et Chris Evert te le diront elles-mêmes qu'elles se considèrent en dessous de Serena Williams. Serena Williams est la plus grande joueuse de tous les temps en tennis. Ça, c'est un accord unanime dans que tout le monde du tennis se dira. Et elle laissera une empreinte totalement indélébile sur son sport. Après, effectivement, comparer à d'autres sports, bien sûr, c'est difficile. Mais pour moi, voilà, pour tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle a fait, tous les combats qu'elle mène, sa longévité, effectivement, je la mets tout en haut de la pyramide. Certains, mais après, j'entends parfaitement d'autres arguments. Je pense pas avoir et de tenir.
Certains sur l'appli RMC Direct Studio nous citent Steffi Graf qui a dominé le tennis effectivement avant l'arrivée de Serena Williams, par exemple. Mais après, si on prend effectivement le palmarès, c'est en dessous de Serena Williams.
Oui, David. On peut remonter jusqu'à Suzanne Lenglen. Je suis désolé, qui est une Française. Hein. Voilà, c'est la première championne du monde sur terre. Bah ouais, mais bon, à 15 ans, elle gagne son premier championnat du monde. Elle est deux fois médaille d'or aux Jeux Olympiques. Elle révolutionne aussi le sport féminin et le tennis féminin avec des nouvelles techniques. Elle change même les codes de vestimentaires du tennis. C'est elle qui prône les jupes courtes, la première, enfin, tu vois, parce que c'est son époque. Et c'est comme ça.
Oui, après, tu peux parler de son époque, c'est la plus aussi.
Il y a l'avance pour tout le monde dans les époques changent.
Eric, tu voulais trancher ce débat. Alors, sur le tennis, j'imagine que tu vas pencher, évidemment, du côté de Marion. C'est la plus grande en tennis. Il n'y a pas de débat.
Non, mais ce qu'il faut observer, c'est que, alors, on ne sait pas évidemment quand est-ce que Serena Williams va jouer peut-être son dernier match. Mais vous savez qu'à l'US Open, ils ont les sessions de jour, sessions de nuit. Donc il y a quatre possibilités pour voir Serena. C'est le lundi après-midi, le lundi soir, le mardi après-midi, le mardi soir. L'USTA, donc les organisateurs, ont eu une vague de demandes d'achat de billets absolument colossal. C'est comme une rockstar, quoi, qui donne son dernier concert. On ne veut pas le rater, donc on prend tous les risques. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont acheté des billets pour les quatre sessions pour être sûr de pouvoir voir Serena Williams. C'est incomparable. C'est un truc de fou. Et ce soir-là, je pense à ce jour-là le soir, il y aura une ambiance mais absolument extraordinaire.
Mais tant mieux, c'est une autre époque.
Bien sûr.
Oui, mais David.
Tu ne peux pas comparer des époques à une autre. C'est ça que je veux faire comprendre. Je ne dis pas que Serena était pas c'est une immense championne. Oui. Mais comparer une époque à une autre avec les moyens de communication, etc., etc., tu ne peux pas le faire. C'est ridicule. C'est comme si tu comparais une voiture d'aujourd'hui à une voiture d'il y a 40 ans. C'est stupide. C'est complètement stupide. Tu fais avec les moyens de l'époque. Tu peux pas comparer.
J'en parlerai à Geoffrey Charpy.
Ce qu'essaye quand même d'expliquer Eric, et je le rejoins totalement, c'est que tu peux un petit peu peser la notoriété de quelqu'un par justement tout ce que ça. suscite comme engouement et même en mais dehors et au-delà du sport. Quand tu vois que tu fais partie d'un clip de Beyoncé, quand tu vois que tu as une chanson à ton nom,
Kobe
Bryant,
elle
assistait au dernier match de Kobe Bryant en étant au bord side de terrain aux Lakers, tu vois, c'est ça qui fait l'aura d'une joueuse.
Et là, pour rejoindre Marion, David, toutes les joueuses n'ont pas ça, alors que les moyens de communication identiques.
Je
veux dire qu'il y a quelque chose de particulier avec cette joueuse, avec cette personne.
Mais parce qu'elle a gagné, elle a beaucoup.
Il y a autre chose que la gagne. Il y a peut-être une personnalité aussi.
Elle a son histoire personnelle, bien sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tu prendrais d'autres grandes championnes qu'on a pu citer auparavant et tu les mets dans le même contexte, ça serait peut-être même au-delà de tout ça. Qu'est-ce que vous en savez? On peut pas savoir. On peut pas comparer.
Moi, je trouve que par sa personnalité, par son parcours, parce que c'est quand même une petite fille noire d'une banlieue pauvre de Los Angeles qui a révolutionné un sport de blanc. Quand même, faut dire les choses telles qu'elles sont. Au départ, le tennis dans ces années-là, c'est vraiment un sport de blanc. Et par tout ça, parce qu'elle représente, par les barrières qu'elle a été capable de casser, elle arrivait sur le terrain. Enfin, moi, pour l'avoir affrontée, dès le lancement de la pièce pour savoir qui allait servir. Elle vous mettait une pression, mais vous sentez très bien qu'elle avait une seule envie, une seule chose, c'était vous marcher dessus, quoi. C'était même pas pour vous battre, c'était pour vous marcher dessus. Et on l'a tellement ressenti pendant des années. Et Amélie, hein, j'ai pas été la seule à le dire, Amélie, Maurice Moladi, Justine Hénin, pareil. Par tout ça, alors que c'était une jeune fille qui avait vraiment pas beaucoup de moyens, on va dire, financiers et encore moins d'infrastructures tennistiques. Par tout ça, je pense que beaucoup de gens sont identifiés à elle. Beaucoup de gens de minorité.
Si t'avais rencontré Chris Tevert ou Court, t'aurais peut-être senti exactement la même chose, tu vois. C'est parce que tu étais acteur de ta génération.
Marion, juste pour finir, quand tu dis déjà rien que par son regard, par sa présence, il y avait quelque chose qui se passait. T'avais jamais vu ça toi, sur le court?
Non.
Ouais.
Je l'ai vraiment. Et pourtant, j'ai vraiment joué contre tout le monde quasiment. De pas mal de générations, j'ai même affronté Monica Seles, tu vois. Donc quand je suis arrivée, c'était vraiment au tout début des années 2000. J'ai joué contre des Davenport, des Capriati, j'ai même joué contre Venus, et même contre Venus, j'ai pas ressenti ça. C'est vraiment que contre Serena, où dès le lancement du match, j'ai dit, mais là, je vais essayer juste de mettre quelques jeux, quoi. Ça va être mon objectif. Et justement, elle a beaucoup intimidé. C'était difficile de gagner ce combat psychologique contre elle. Mais moi, ce que je retiens de Serena, c'est cette capacité à se transcender, à vouloir prouver aux gens qu'ils avaient tort et qu'elle allait réussir quoi qu'il arrive. Ça va être la plus grande de tous les temps. Elle le dit, dans son article de Vogue, d'ailleurs. Elle aurait dû en gagner 32 grands chelems. Alors après, on pourrait être d'accord, pas d'accord, mais elle avait vraiment ce sentiment-là d'être en mission et de prouver aux gens qu'ils avaient tort. Et son papa avait affiché quelque chose qui m'avait marqué, d'ailleurs. Un panneau sur son terrain de Compton, là, dans la banlieue de Los Angeles, quand elle s'entraînait petite. Lorsque tu perds seule. Elle a beaucoup gagné. C'est certain. Et elle est plus vraiment toute seule.
Ouais. Alors justement sur ce débat, il y a Ayrton qui nous dit sur l'appli RMC Direct Studio, Serena c'est niveau Roger Federer, Michael Jordan et Zidane, voilà pour l'avis d'Ayrton. Si on veut, alors que je précise aussi, Marion, t'as quand même battu la plus grande sportive de tous les temps, donc t'es pas très très loin finalement, Marion.
Moi aussi, c'est très très loin.
Tu l'as battu, il faut le rappeler.
Tu l'as battu à Wimbledon. Je suis plus dans la liste.
Tu l'as battu sur son terrain en plus à Wimbledon, donc quand même c'est pas mal. Non mais pour juger Manu, et puis je vais te laisser le mot de la fin, pour juger, même si ce débat ne vous plaît pas forcément, on peut prendre quelques critères objectifs. La longévité, elle l'a. Le palmarès.
C'est pas objectif.
Ah si, la longévité.
C'est objectif. T'as des disciplines sportives où tu peux pas avoir cette longévité. Ouais. C'est impossible.
Ouais, alors après, elle est revenue après avoir accouché. Ça aussi, ça fait partie aussi de la légende.
Et deux embolies pulmonaires aussi.
Voilà, donc ça fait partie de tout ça. Son palmarès, là, c'est objectif. Son aura, alors là, ça peut être prêté à subjectivité, évidemment, mais on le voit par rapport à tout ce qu'elle a apporté aussi et ce qu'elle a apporté à son sport. Ils sont rares quand même les gens qui ont transformé un sport. On peut comparer quand même.
Non, mais l'évolution a fait que.
Il y a plein de champions qui ont transformé leur sport.
Hein. Mais bien sûr. Et puis l'évolution des raquettes, tout ça, ça a évolué quand même pendant des années. Oui. Donc à partir de là, l'évolution, elle a profité des évolutions pendant toute sa carrière.
Oui, enfin bon, après, elle aussi, elle a fait bouger les choses.
C'est surtout beaucoup entraîné, parce que la raquette, c'était la même pour celle d'en face.
Tu as rien sans le travail, Marion, t'as rien sans le travail, tu le sais.
Non, mais tu vois, il y avait une statistique très intéressante qui a été sortie par un de ses sponsors. Quand en 99, elle remporte l'US Open, elle sert en moyenne à 103 miles, ce qui fait environ une conversion, on va dire, à 165 km/h et des poussières. Quand elle remporte son dernier grand chelem en 2017, en étant enceinte de 2 mois, elle servait en moyenne à 120 miles, ce qui fait quasiment 200 km/h. C'est pas juste la raquette et le cordage. Ouais. Tu vois, donc elle a eu cette capacité à se remettre sans arrêt en question, à repousser même ses propres limites, même si elle dominait, à comprendre que les autres allaient pousser derrière, à comprendre que les autres aussi allaient s'améliorer, donc systématiquement toujours aller chercher plus haut, plus fort, et ça c'est l'apanage et tout grand. Ouais.
Alors juste un dernier mot avec Eric, parce que tu parlais du 24e Grand Chelem, c'est pas possible d'imaginer pour sa tournée d'adieu à l'US Open qu'elle remporte l'US Open?
Ah, franchement, là, je serais étonné qu'elle finisse en beauté, parce que bon, elle a 40 ans et malheureusement, on l'a vu sur le toit de Toronto. Bon, voilà, elle a plus les jambes d'avant, mais on ne sait jamais. Elle peut gagner un ou deux matchs sur l'adrénaline, quoi, comme Agassi. Moi, j'ai noté l'exemple d'Agassi dans mon papier parce que ça m'avait marqué. Moi, le parcours d'Agassi en 2006, c'était juste fantastique. Absolument. Il était allé au bout de lui-même. Il s'était même effondré dans le parking parce qu'il pouvait plus arquer, le pauvre. Donc, Serena est capable de tout donner parce que c'est une immense championne et elle voudra mourir les armes à la main. Et c'est pour ça que faudra pas rater son match ou ses matchs. J'espère qu'il y en aura plusieurs parce que ça va être un grand moment de tennis. Mais pour revenir au débat, la chance du tennis, c'est que c'est un sport ultra médiatisé, qui est bien organisé, qui est bien foutu, avec des grands chelems, des rendez-vous bien programmés dans l'année. Alors que c'est vrai, comme Anetchi, son rendez-vous de l'année, c'était les Jeux, et après, elle disparaissait quasiment de la compétition. Donc
c'est 10 sur 10, tout le monde s'en souvient quand même.
Ça a marqué les esprits.
C'est un one-shot, quoi, tu vois.
Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Eric.
Serena qui a 41 ans le 6 septembre.
Oui. Merci Eric, à très bientôt, tu reviens quand tu veux dans les GG, bien sûr, tu seras réinvité.
Avec Marion,
notre spécialiste tennis. Ah oui. On a les spécialistes qu'on mérite, hein, tu sais. Non, tu reviendras Eric, hein. Il est déjà parti. Les GG qui reviennent, qui partent sur le terrain dans un instant, on est à J-99 avant le mondial au Qatar. On vous emmène justement au Qatar dans un tout petit instant, restez avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
François Pinet.
Il est 11h31, encore une demi-heure à passer en votre compagnie, les GG qui continuent jusqu'à midi, avec dans un quart d'heure votre moment. Si vous n'avez pas encore fait le 32-16, c'est le moment, hein. Faites le 32-16, contactez Amina pour passer dans l'émission. Tous les avis sont attendus, bien sûr, pour réagir à l'émission. Si par exemple vous avez trouvé qu'une de nos GG du jour avait eu un avis catastrophique, ben, vous venez de lui dire en face, ou presque, bien sûr. Les GG du jour d'ailleurs, composés de Marion Bartoli, Manu Amoros et David Douillet. Mais avant cela, c'est l'heure de prendre la route, les GG.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Nous sommes à 99 jours du début du mondial de foot au Qatar. Alors oui, on aurait dû être à 100 jours, mais nos petits amis de la FIFA ont décidé d'avancer d'une journée. Le match d'ouverture Qatar-Équateur, ça commencera le 20 novembre. Donc c'est 99 jours, mais ça marche quand même. Notre débat, c'est l'occasion de vous demander si vous avez hâte d'y être. Est-ce que vous êtes excité par ce mondial, les GG? Oui ou non, Marion Bartoli?
Oui, mais attention.
Oui, mais attention.
Mais il y a des bémols.
Non, ça, c'est pas une réponse. C'est oui ou c'est non.
Oui, mais il y a des petits bémols.
On a le droit, de temps en temps, de dire un oui, mais. Manu Amoros.
Moi, je suis excité, oui.
Oui, excité. David Douillet.
Non, mais j'ai hâte.
Non, mais j'ai hâte.
Oui, on y va.
Ah oui, ça, c'est vraiment Normand qui parle. Avant de vous entendre un peu plus longuement, on accueille Nicolas Pelletier de la rédaction RMC. Salut Nico.
Salut à tous.
Tu as eu l'occasion, justement, pour RMC, RMC Sport, de faire plusieurs voyages au Qatar. Est-ce que tout est prêt pour accueillir joueurs et supporters là-bas?
Alors, dans moins de 100 jours, vous allez suivre sur RMC cette Coupe du Monde particulière, inédite par son format, spécial par son environnement, critiqué pour ses dérives et surtout unique pour le Moyen-Orient. Cette première Coupe du Monde dans cet endroit du globe a énormément fait parler depuis des années. Depuis l'attribution en 2010 par la FIFA, un élément est surtout pointé du doigt par les ONG, les conditions de travail des ouvriers migrants. Lola Schulman, la représentante d'Amnesty International.
Le salarié est complètement pieds et mains liés avec son employeur et l'entreprise qu'il a recrutée. Donc, pour la plupart, ils sont engagés sur un contrat qui peut être un contrat de 2 ans, notamment. Et donc, le salarié, pour lui, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de changer d'employeur. Et les conditions qui étaient à la base dans le contrat ne sont pas forcément les mêmes une fois qu'ils arrivent au Qatar.
Une enquête du Guardian, il y a quelques années, évoque une mortalité des ouvriers migrants au Qatar de 6500 morts depuis l'attribution du mondial. Selon le comité d'organisation, seuls 37 sont morts sur des chantiers de la Coupe du Monde. Autre élément important, le pays sera totalement fermé pendant ce mondial. Pour y entrer, il faudra obligatoirement posséder un ticket. Et le voyage, au final, coûte assez cher pour les supporters des Bleus. Yannick, un fan qui va vivre sa 7e Coupe du Monde.
On loue des maisons sur place à Doha. Donc c'est à peu près 800 euros par personne. L'avion, on est à peu près à 1050 euros par personne au départ de Paris, un vol direct. Pour terminer, les billets pour les 4 premiers matchs, je disais à peu près 280 euros. Voilà, donc on va dire approximativement, ça revient à 2200-2300 euros par personne pour 15 jours de compétition.
Niveau hôtellerie, 130 000 places de logement seront disponibles pendant ce mondial. 1,3 million de supporters sont attendus sur place pendant le mois de la compétition. Dans un petit état qui fait la taille de la Corse, on peut s'attendre à une densité de supporters très élevée. C'est sûrement le point positif de ce mondial. Tout le monde au même endroit. L'organisation se dit prête à relever ce défi. Hôtel dans le désert, création de chambres, bateaux de croisière et des hôtels sur l'eau. Dans ce dernier cas, une entreprise française va en tirer profit avec une soucoupe posée sur l'eau. Muriel Sébron, la directrice de la communication d'Anténéa.
C'est vraiment merveilleux, c'est pour nous une vitrine mondiale. Anténéa en plus une forme ronde, une forme de... il est blanc, donc on est plutôt proche du ballon de foot, donc ça tombe assez bien.
Alors comptez quand même 800 euros par nuit pour dormir dans ce logement sur l'eau à Doha. Plusieurs dossiers chauds vont s'y miner ce mondial 2022. Tout d'abord l'alcool, ce qu'on peut dire ce matin, c'est qu'il sera possible de consommer de l'alcool au Qatar lors de la Coupe du Monde 2022. L'alcool sera disponible dans les bars et restaurants des hôtels ainsi que dans des fan zones afin de respecter la culture et les traditions qataris, affirme l'organisation. On rappelle que l'un des principaux partenaires de la FIFA reste une très grande marque de bière. Les supporters, eux aussi, ont tout prévu comme Yannick.
L'aspect alcool, etc., on est d'accord que c'est sur la voie publique. Voilà, et donc il y a beaucoup de pays au monde où on ne peut pas boire d'alcool sur la voie publique, même si ce n'est pas forcément respecté. Nous, à la maison, vous pourrez venir, hein, on aura tout ce qu'il faudra. On va faire des barbecues entre copains, on va boire l'apéro, il y aura du saucisson, il y aura tout ce qu'il faut.
Autre dossier important, les relations sexuelles entre les couples non mariés. Dans les règles, il est vrai que dans la loi du Qatar, il est inscrit que 2 personnes non mariées n'ont pas le droit de coucher ensemble sous peine de 7 ans de prison. Mais la réalité est très différente. Interrogé à ce sujet par RMC début juillet, la plupart des habitants de la capitale ont la même réaction. Ils dégainent leur téléphone portable pour montrer les applications de rencontres, symbole pour eux de l'ouverture du pays et du changement progressif des mentalités. Enfin, il y a aussi l'aspect de l'écologie, ce mondial en hiver avec des stades construits au milieu de nulle part, climatisés pour 7 d'entre eux, même si on nous dit que la clim ne sera pas utilisée pendant la compétition car les températures vont tourner autour de 20-25 degrés. François, le membre des irrésistibles français, c'est difficile à dire, ne veut pas éluder ce sujet.
En tant que citoyen, on est obligé d'y penser. Alors après, on pourrait dire, le boycott ou pas le boycott, ce sont d'autres sujets. Après, d'un point de vue écologique, on est quand même nombreux supporters français à s'être interdit de faire les allers-retours entre les pays du Golfe, parce qu'à la base, ce que recommandait le Qatar, c'était, loger à Dubaï, loger à Oman, et vous ferez les allers-retours dans la journée. Les stades, en théorie, je dis bien en théorie, j'en ai pas la certitude, moi je suis qu'un supporter, ne seront pas climatisés. Évidemment, on est d'accord que c'est une gabegie, que faire 8 stades à Doha, ça n'a strictement aucun sens, ni écologique, ni économique, ni société, tout simplement aucun.
Les supporters des Bleus seront quand même bien présents en nombre à Doha pour ce mondial. Et enfin, il faudra aussi surveiller l'accueil du Qatar pour les personnes qui essaieront de brandir un drapeau LGBT pendant la compétition. Nasser Al-Khater, le directeur de Qatar 2022, s'est engagé à ce que le tournoi soit ouvert à tout le monde. Retenez bien, 20 novembre 2022, cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde sur RMC. Une cérémonie que l'on annonce à l'image de ce mondial sûrement démesuré.
Merci beaucoup Nico, tu restes avec nous. RMC, je le rappelle, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Avec évidemment tous les matchs à suivre en direct sur RMC. Alors cette question évidemment se pose, êtes-vous excité par ce mondial? Il y a la question du boycott derrière évidemment aussi, notamment Philippe Lahm s'est exprimé il n'y a pas si longtemps, l'ancien international champion du monde avec l'Allemagne, qui explique que lui n'irait pas, même en tant que supporter, qu'il préfère suivre le tournoi chez lui parce que les droits de l'homme, ça le gêne justement, et les droits de l'homme devraient jouer un plus grand rôle dans l'attribution d'un tournoi. Voilà ce qu'a dit l'ancien ancien international allemand. Marion, toi tu as dit oui, tu es excité, mais il y a des choses qui vont pas. C'est ça.
Non, mais effectivement, ça a été dit dans le sujet quand on lit les articles publiés par Amnesty International avec ce fameux système un petit peu archaïque qui s'appelle en fait le kafala, qui lie effectivement l'ouvrier à son employeur et tout ce qui se passe malheureusement là-dedans. C'est bien évidemment qu'on peut pas s'en réjouir et qu'on peut pas rester totalement de glace et insensible, ça c'est certain. Après, quand on a vu l'organisation également au Brésil ou en Russie, il y avait aussi pas mal de problèmes et j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu une campagne aussi virulente par rapport à ce qui a été le cas au Qatar. Et pourtant, on le voit très bien ce qui se passe avec la Russie actuellement. Donc pour moi, je vais retenir quand même l'excitation sportive parce que c'est un mondial, parce qu'on a envie de suivre l'équipe de France, parce que l'équipe de France est tenante du titre et qu'on a envie de supporter nos Bleus et d'être derrière cette aventure. J'ai eu la chance de faire le déplacement au dernier moment, en prenant la décision, voyant la France en finale, et d'aller à Moscou et de vivre dans le stade cette expérience fabuleuse, de les voir être sacrés champions du monde. Donc moi, je veux retenir effectivement l'excitation sportive, l'enthousiasme autour d'une compétition aussi importante, tous les fans du monde entier qui viennent et qui supportent leur équipe avec les différentes cultures et ces différentes ambiances, c'est ça que je veux retenir. Mais après, effectivement, totalement occulter ces problèmes-là de droits humains, non, je n'arrive pas à le faire, mais je pense que voilà, il y a d'autres pays aussi où il y a eu des difficultés.
Ouais, Marion, qui est donc l'ami de Tom Cruise et qui est invité à la finale de Coupe du Monde, décidément, Marion, quel resta. Manu, oui, il faut réécouter le podcast pour comprendre ce qu'on disait sur Tom Cruise. Manu, toi, tu as dit oui.
Parce qu'il faut rester dans le monde du football. C'est vrai qu'on peut pas occulter le fait qu'il y ait des gens qui sont morts pendant la construction de stades. Mais dans toutes les grandes constructions dans le monde, il y a toujours des blessés ou des morts. Mais on n'en parle pas. Là, c'est un petit pays qui est riche et qui peut se permettre d'avoir une Coupe du Monde et qui peut la payer. Nous, on va faire des Jeux Olympiques, on va dépenser 8-10 milliards et c'est nos enfants qui vont payer plus tard.
Il n'y a pas
de
mort sur les chantiers des Jeux Olympiques. Hein.
Et, il n'y a pas de mort, t'en sais rien, François. T'en sais rien.
On le saurait quand même.
T'en sais rien. Ne dis pas non, tu t'en sais rien. Peut-être qu'il y a eu des morts, peut-être qu'il y a eu des blessés, mais là, on se tait, on ne dit rien. Tu sais bien comment on fonctionne nous en Europe, c'est compliqué. D'accord?
Ouais.
Bon,
la France ne va pas dépenser 8 à 10 milliards. Hein. C'est
combien?
Le coût des Jeux, ça va être au-delà de 6 milliards. On ne sait pas encore combien, mais au-delà de 6 milliards.
Ouais.
Et la France, la partie française, ne va pas dépasser 1 milliard, 1 milliard et demi, peut-être 2 milliards. Attention, le reste, c'est le CIO, les sponsors, etc. Il faut être juste, hein. Il faut être juste et il faut dire les chiffres et les bons chiffres. Sinon, on nous fait raconter des histoires les auditeurs vont croire qu'on n'a pas les moyens d'organiser les jeux, ce qui est faux.
Dans un monde économique qui est compliqué, difficile, et l'État cherche de l'argent un peu de partout. Et on va dépenser cet argent pour quelle rentrée? Et cet argent-là qui va être dépensé.
Les rentrées sont colossales. Non, mais là où les David, rentrées sont colossales.
David a raison. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on va dépenser beaucoup d'argent et que ça va être encore les Français qui vont mettre la main à la poche.
Alors
qu'on donne au Qatar la possibilité de faire la Coupe du Monde et de dépenser des milliards, ils s'en foutent, eux. Ils les ont, les milliards. Ils peuvent les dépenser. Et ce n'est pas les Qataris qui vont payer des impôts pour pouvoir.
Pour ce qui est des JO en France, aujourd'hui, enfin, de ce qui est prévu, parce que rien ne s'est déroulé. Entre le total des recettes et le total des dépenses, on est largement bénéficiaire.
Nico, sur
le sujet des Jeux Olympiques, David a raison, c'est une petite partie qui est financée par l'État. L'État, en fait, se porte garant, mais c'est pas l'État qui finance. Il y a la grande partie des recettes qui arrivent de fonds privés avec des entreprises qui sponsorisent les Jeux, et c'est la plus grande partie des recettes pour le COJO.
Et je précise qu'il y a eu des accidents graves, effectivement, Manu, mea culpa, sur des chantiers liés aux Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est passé inaperçu et que
toutes les associations ne sont pas tombées
certains sujets en parlent, en tout cas, et on peut retrouver ça évidemment. Pour revenir sur cette compétition,
oui, moi je suis excité parce que écoutez, moi j'ai eu la chance d'en faire deux de Coupe du Monde, et c'est un engouement extraordinaire avec les supporters. On vit des choses fabuleuses, et quand on est footballeur professionnel et qu'on atteint ce sommet de compétition et d'arriver à une Coupe du Monde et de pouvoir y participer participer et de partager le bonheur qu'on peut donner aux Français, qu'on ait gagné ou pas gagné, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Donc voilà, moi je suis très excité, je vais être grand supporter de l'équipe de France.
Après, on peut imaginer David Douillet, que peut-être que cette Coupe du Monde va faire évoluer les mentalités dans le pays aussi, hein.
C'est exactement mes propos. En fait, on a toujours ce débat, que ce soit des JO organisés dans des pays où les libertés des droits de l'homme sont très discutables. Je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez aussi bien que moi. Et là, l'exemple du Qatar avec la Coupe du Monde de foot. Il y en a toujours qui sont là pour critiquer en disant « Non, non, c'est pas bien, ils font des choses ignobles ces jeux, on va boycotter, etc. » Ça ne sert à rien. C'est l'inverse qu'il faut faire. Justement, quand un pays est mis en lumière grâce au sport, c'est un pied de biche et on ouvre la porte de la liberté dans ces pays-là. Exactement. On ouvre la porte des évolutions. Regardez le Qatar. Le Qatar remporte la Coupe du Monde, l'attribution, hein, en 2010. De 2010, je vous la fais courte, hein, parce que ça serait trop long, jusqu'à aujourd'hui, les droits... Alors, je ne dis pas que c'est la panacée, hein, mais on est passé quasiment... Je vais y aller fort, d'un système féodal à un système qui se modernise, même si c'est pas totalement appliqué sur place. En tout cas, ils ont fait une sacrée évolution parce que
le CAFALA, dont parlait Marion tout à l'heure, il a été aboli.
Voilà, des règles et des lois ont été ratifiées pour que il y ait des salaires minimums, les gens puissent sortir du pays alors qu'avant ils n'avaient pas le droit quand ils avaient un contrat de travail. Vous vous rendez compte de l'histoire. Bref, tout ça. Il y a eu un coup de boost qui a été donné en termes de droits pour les travailleurs. Alors, c'est pas encore la panacée. On est à des années-lumière de ce qui peut se passer chez nous. Mais en tout cas, on peut pas dire que ça soit resté en l'état. Et ça, c'est grâce à ce type d'événement que les choses avancent aux quatre coins du monde quand il s'agit d'organiser des choses. C'est la liberté qui frappe ce genre de pays qu'on évolue moins vite que les nôtres, d'une manière ou d'une autre, et ça, on n'est pas là pour refaire les histoires, en tout cas, on est là pour faire avancer les choses.
Mais tu sais, David, et Nico, pour finir, Manu.
Ouais, non, juste pour dire, David, tu sais bien que dans ces pays-là, au Moyen-Orient, parce que moi, j'étais au Koweït pendant 2 ans, moi, j'étais sponsorisé par la fédération, et ils me prenaient mon passeport. Chaque fois qu'on avait des déplacements, ils me donnaient mon passeport. Donc, ces gens-là qui viennent travailler, il y a des sponsors, et les sponsors récupèrent leur passeport, donc ils ne peuvent pas sortir du pays. Et c'est ça aussi le problème, c'est que ça n'a pas eu beaucoup d'évolution.
Quand tu vas dans
d'autres lieux, il y a eu
justement,
ils l'ont aboli, mais après quand tu es dans les faits, effectivement, c'est quand même resté très compliqué.
Parce que là, on comprend plus rien.
Le sponsor, il te rend pas le passeport aussi facilement que ça.
Nicolas Pelletier sur ce sujet.
Ils ont aboli le système de la kafala, mais Marion a raison. Dans les faits, ça reste encore très compliqué pour les ouvriers migrants. Et il y a aussi un petit paradoxe. Il y a beaucoup de monde qui avoue que boycotter cette Coupe du Monde, sauf qu'en plein hiver, les audiences vont être à la télé, vont être exceptionnelles, vu que tout le monde sera devant la télé en plein hiver. Bien c'est sûr. Un peu la différence avec l'été, donc on risque aussi d'avoir des audiences exceptionnelles en plein hiver à la télé.
Évidemment.
Non mais, moi, excuse-moi, moi j'ai joué au Mexique, le Mondial 86. Tu sais à quelle heure on jouait les matchs?
Non.
À midi, heure locale. Dit. Et tu sais pourquoi? Parce que la retransmission, il y avait 8 heures d'écart avec l'Europe. Midi, il faisait 38 degrés avec 80% d'humidité. Tu crois que c'est normal ça aussi?
Ah bah non, mais justement.
Donc voilà, il faut être préparé si tu veux. Nous, on était partis 3 semaines avant au Mexique, avoir la préparation, on s'entraîne tous les jours à midi.
Non, il n'y aura qu'une semaine.
Ce qui ne sera pas possible évidemment, puisque c'est en plein milieu des championnats. C'est un des problèmes aussi.
Il faut occulter si tu veux ce problème de chaleur. Oui, il fait chaud malheureusement, mais on peut s'adapter.
En hiver, il fera pas chaud. Il fera moins chaud. Ouais. En hiver, au Qatar, là, il fera pas chaud. Il fera entre 20 et 25 degrés.
Mais oui. Merci
c'est
beaucoup.
Si jamais il l'avait gardé pendant l'été.
Merci Nicolas Pelletier.
Merci à vous.
Tu reviens quand tu veux dans les GG, bien évidemment. Nico. Merci. Salut, dans un instant, merci, c'est Nico. Votre moment, les GG. Et vous, on vous attend au 32-16 pour venir affronter une GG. David Douillet, Manu Amoros, Mario Bartoli, vous choisissez. Je vous préviens, il faut être solide. Hein. À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
François Pinet.
Les GG de retour pour encore 10 minutes avant de retrouver la bande des paris RMC. Les GG aujourd'hui, Marion Bartoli, David Douillet, Manu Amoros. Ils sont en pleine forme. Donc je vous propose, si vous vous réveillez seulement, de réécouter le podcast de l'émission qui est déjà disponible. Et tout de suite, c'est votre moment, les auditeurs.
RMC,
les grandes gueules du sport. et vous.
Alors, je précise pour Manu qui débute dans cette émission. En gros, les auditeurs peuvent appeler quand ils veulent, le 32-16, le standard. Non. Et si jamais vous avez dit une bêtise, en tout cas ce qu'ils estiment être une bêtise, ils peuvent venir vous le dire en face. Mais Manu, tu es épargné aujourd'hui.
Ah bon ?
Personne ne veut t'affronter. Ou alors,
pas
tu fais
trop
peur.
De alors,
tu fais peur aux gens. Bon, ça, je ne sais pas si c'est pour ça.
Ils ont peur que je leur
attaque. Mais en tout cas, David, tu as quelqu'un qui veut te parler. Ethan est avec nous au 32-16. Salut Ethan.
Salut.
Supporter du PSG, je le précise, Ethan, c'est important. Mais tu veux revenir sur notre débat autour de l'Olympique de Marseille. Et David était le seul à dire que Marseille n'était pas le plus grand club de France.
Alors, déjà, avant de commencer, je voudrais embrasser tous les rageux qui pensent que je vais trahir mon club en disant ça. Donc, petit bisou à vous.
Il t'écoute.
Alors, moi, je pense que Marseille est quand même le plus grand club de France parce qu'il y a deux critères à prendre en compte, le palmarès et la popularité. Le palmarès, j'ai regardé entre 88 et 93, Marseille, c'est deux demi-finales européennes, deux finales plus une victoire dans l'une des deux finales. Mais moi, c'est surtout sur la popularité que je veux me baser parce que pour moi, c'est le plus important. Déjà, il y a la ferveur pour moi des supporters de Marseille est légendaire dans le monde entier. Elle est reconnue partout et je trouve que moi, ce qui met en lumière ça, c'est le aux armes. Parce que le aux armes, alors je ne m'y connais pas assez pour dire que c'est Marseille qui l'a créé. Donc, je vais surtout dire que, selon moi, le aux armes le plus célèbre, quand on demande à quelqu'un le aux armes, enfin, lequel aux armes tu préfères, je pense que beaucoup de monde répondent celui de Marseille parce que c'est celui où il dégage le plus de bruit, le plus d'ambiance. Donc, il y a déjà ça. Et aussi parce que, d'après moi, je pense que les Français se reconnaissent plus dans Marseille que dans Paris. Parce que dans Paris, je pense que les gens disent « Oui, mais c'est un club qui a réussi à monter en grade grâce à l'argent, tout ça, tout ça. »
Mario Bartoli, ça.
Alors que Marseille, je crois que Marseille, c'est un club...
Je t'adore, Ethan, tu sais quoi ?
Marseille, c'est un club qui est passé par la Ligue 2, qui a touché le fond avec la Ligue 2, qui est remonté, qui a touché le Graal avec la Ligue des Champions. Et je trouve que je pense que les Français se reconnaissent plus dans ce club-là.
D'accord. Mais écoute, Ethan, courageux pour un supporter du PSG, effectivement. Tu risques d'avoir quelques petits messages.
J'en ai marre. La rivalité, c'est pas mon truc. Parce que je sais que Paris, moi j'ai 16 ans. Donc je sais que Paris, la popularité de Paris depuis 10 ans, moi je le reconnais. Elle est plus forte que celle de Marseille depuis 10 ans, celle de Paris. Parce qu'auprès des plus jeunes, dont je fais partie. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'avant, il y a eu quelque chose, en fait. Moi, je suis né en 2005, mais j'ai déjà regardé la finale en 93 de Marseille face à Milan. Ouais. Il y a eu des trucs avant, en fait, le Qatar. Ça a existé, le football, avant. Donc, je trouve que les jeunes prennent trop trop d'importance sur ce qui s'est passé depuis 2011 en oubliant avant.
Voilà, le message de sagesse d'Ethan 16 ans. David, tu veux répondre là-dessus? Alors, vraiment sur la popularité de Marseille, je sais même pas si toi, t'es d'accord avec ça. Alors, Marseille, club le plus populaire de France, là, il y a peut-être pas de débat pour toi.
Mais si.
Ah, si, quand même.
Okay. Non, mais... Il est en conflit aujourd'hui, David.
Non, mais, il fait des questions fermées. T'es d'accord avec ça, David? Bah non, je suis pas d'accord avec ça.
T'as le droit de le dire, pas de problème. Oui, mais ça, c'est les journalistes.
Marseille est grand parce que le PSG est grand. Et le PSG est grand aussi, pas que, mais parce que Marseille est grand.
Voilà.
C'est la confrontation qui font grandir les uns et les autres et qui donne la beauté pour un combattant, un club, un sportif, etc. C'est vraiment lorsque, si Marseille était tout seul, il serait beaucoup moins grand. Si le PSG était tout seul, de la même manière. Si l'OL était tout seul, de la même manière. C'est vraiment le fait qu'il y ait plusieurs acteurs de très grand niveau qui fait que les choses se subliment pour les uns et pour les autres. Moi, je vais ajouter un troisième ingrédient parce que t'en as mis deux, t'as mis la popularité et le palmarès. Si tu commences à mettre l'économie et les modèles économiques, là, d'un seul coup, Marseille est plus le plus grand. Voilà. Et l'OL repart un petit peu en avant. Donc, tout dépend. Encore une fois, on peut en parler des heures, mais tout dépend de ce que tu mets dans l'équation et des paramètres de l'équation. Moi, le paramètre de mon équation, elle incorpore ce que je viens de te dire. Mais si tu es dans le paramètre de ton équation, tu as sans doute raison, Ethan. Et quelqu'un du PSG mettra un autre paramètre, il aura aussi raison. Mmh. Voilà. Donc, Le plus grand club, c'est celui qu'on aime et celui, c'est celui qui nous a fait vibrer, bah, crois... dans lequel on a le plus de souvenirs, ouais. N'est-ce pas, Marion?
Je crois qu'on va finir là-dessus.
Moi, le plus grand club du monde.
C'est
le
quoi,
plus grand club du monde.
C'est quand?
C'est le... Moi, le plus grand club du
c'est
monde.
C'est le SM Caen. C'est pas le Stade Malherbe de Caen.
Ah, c'est normal. C'est le full... le FCB, le football club de Bellencombre, ah, village de 600 habitants, ah, sûr, j'ai ouais grandi.
Ah oui, voilà. Ah, l'ambiance et, de... Ah oui, c'est la folie.
Voilà. Ah, la buvette, voilà, là, c'est la voilà folie avec David Douillet, voilà, je peux vous
exactement
dire.
Exactement, mais on vivait des moments merveilleux. Tout le village était rassemblé. Quelquefois, ça finissait un petit peu mal autour de la buvette, voilà, d'ailleurs. Mais les choses étaient réglées et on repartait pour une semaine et tout allait bien. Non, mais voilà. C'est une affaire de passionnés et les passionnés ont toujours raison. Point.
Attends, point, j'ai quelque chose à dire. Étienne confirme que le Haut-Zarme, dans le stade, n'a pas la chair de poule, c'est que tu ressens plus grand-chose. Haut-Zarme dans le stade de Marseille, c'est quand même quelque
mais
chose.
Mais il attend ton invitation, Étienne, au stade Vélodrome, c'est sûr. On le remercie en tout cas, Étienne. Merci beaucoup d'être venu dans
Marion,
le GG.
La prochaine ça fois, on te met un gage, tu ne dois pas prononcer OM pendant toute l'émission. On va voir
ce qu'il y a. La prochaine fois, c'est demain. Tiens, on va voir si on va pas parler de l'Olympique de Marseille.
On ne peut pas faire une émission sans parler de l'OM. C'est pas possible.
Merci Marion, à demain. Merci Manu, à demain. David, merci, à très bientôt. À très bientôt.
À
tu ne seras pas là
amis,
demain,
bon
remplacé
courage
par Fred Weiss, qui sera à ta ouais place, un autre grand monsieur dans les GG. Les GG qui reviennent demain, donc 9h sur RMC, jusqu'à midi.